RFI, grand reportage, Charlotte Hydrac. Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion.
Bonjour, cap sur le Danemark aujourd'hui. Ce plat pays du nord de l'Europe constitué d'une péninsule et de plus de 440 îles. Le pays compte 6 millions d'habitants, mais pourrait en nourrir 3 fois plus. Les produits agroalimentaires danois sont appréciés dans le monde entier et constituent un quart des exportations du pays. Mais cette réussite cache une réalité plus sombre, celle d'un difficile accès à la terre pour les jeunes agriculteurs. Les crédits se font rares et la relève est devenue problématique. Danemark, jeunes agriculteurs à la recherche de terre. Grand reportage, signé Agnieszka Kumor.
La vie s'écoule doucement à Hun, une petite ville à l'ouest de Seeland, la plus grande des îles danoises. Avec sa rue principale bordée de maisons peintes en blanc, son école, sa gare, son église en briques rouges et son centre commercial, la ville est sans doute ennuyeuse pour les jeunes. C'est pourtant ici qu'ils viennent de tout le pays pour apprendre à diriger une ferme moderne. L'établissement propose un enseignement basé sur la théorie et la pratique dans une ferme témoin. Mais de temps en temps, une partie de baby-foot s'impose. Philippe Johansson, 22 ans, nous ouvre les portes de son école.
Ces trois bâtiments là-bas, sur la gauche, ce sont les chambres d'étudiants. C'est tout neuf et plutôt sympa. L'école accueille de plus en plus d'étudiants. Avant, ils vivaient dans les fermes environnantes dans lesquelles ils travaillaient. Mais aujourd'hui, ils choisissent plutôt une pension complète. Alors on s'agrandit.
Son diplôme en poche, Philippe compte reprendre la ferme familiale de 600 hectares. Son frère, diplômé de la même école, s'occupera d'un élevage de porcs. Philippe, de la culture du blé. Son copain de 26 ans, Alexandre Gadeberg, est un garçon de la ville. Pourtant, ses frères sont tombés de nu quand il leur a annoncé son rêve d'avoir une ferme laitière.
Les vaches, c'était comme du chinois pour moi. La personne qui m'a tout appris, je l'ai rencontré lors de mon premier stage à la ferme. Et ce fermier, je le considère comme mon mentor. Je lui dois tout.
Les étudiants sont bien conscients des problèmes auxquels ils feront bientôt face. Daniel Hansen, 26 ans.
Je ne pourrai pas me contenter de reprendre la ferme de mon père. 7 hectares, c'est trop peu pour vivre de ma production. Alors au début, je pense me faire embaucher dans une autre entreprise agricole pour gagner de l'expérience. Et plus tard, je pourrai acheter plus de terres pour moi.
Dans leur recherche de travail ou de financement, ces jeunes pourront compter sur l'aide des CEGES. Ce sont ces centres de recherche et de conseil mis en place et financés par les agriculteurs. Paul-Henrik Prahl pense déjà à transmettre sa ferme. Cet exploitant céréalier d'une cinquantaine d'années vit à Smakerup, un village situé près du port de Kalundborg, à l'extrême ouest de Seeland. La route traverse les champs parsemés de haies, de buissons de lilas et de cours d'eau. Une belle bâtisse apparaît au loin.
Je vis ici. Les bâtiments datent du 17e et la maison a été construite en 1856. Je suis la quatrième génération de fermier ici.
Le fils de Paul-Henrik étudie à l'école d'ingénieurs à Copenhague. S'il change d'avis et qu'il revient, il sera le bienvenu, mais le père l'a prévenu.
Ce n'est plus si amusant d'être agriculteur, c'est devenu un métier à risque. Faire fonctionner la ferme, ça coûte cher et les revenus ne sont pas énormes. À son installation, mon fils devra payer 15% de la valeur de la ferme à l'État, environ 1,5 million d'euros de taxes. Cette fiscalité est censée financer les retraites agricoles les plus faibles. Mais moi, je cotise déjà pour une retraite complémentaire. Cette ferme compte beaucoup pour moi, mais si mon fils ou ma fille ne ressentent pas la même chose, ce n'est pas grave, ils doivent vivre leur vie à leur manière.
Like
Si Paul-Henrik Prahl dirige sa ferme de 700 hectares comme une entreprise, c'est parce que jusqu'à ses 35 ans, il travaillait comme négociant en matières premières agricoles. Depuis, il consulte les cours des céréales en temps réel. À ses débuts, en plus de la ferme familiale, il dirigeait une autre exploitation louée en fermage qu'il a fini par racheter, tout comme deux autres fermes voisines. Cette stratégie à long terme a payé. Petit à petit, il a investi dans des machines, modernisé la ferme afin qu'il devienne viable. Mais la crise est passée par là. Les banques ont fermé le robinet du crédit, il a fallu trouver autre chose pour continuer à investir.
Nous avons au Danemark un modèle de crédit hypothécaire unique en Europe. Les experts sont venus sur mon exploitation, ils ont évalué mes revenus et m'ont proposé un crédit basé sur la valeur de la ferme. J'ai pu emprunter jusqu'à 70% de sa valeur. Ces établissements de crédit hypothécaire offrent des taux deux fois plus bas que les établissements classiques. Pour un crédit sur 30 ans, cela vaut 2 à 2,5% contre 4 à 5% pour une banque. Mon conseil pour investir, prendre le gros en crédit hypothécaire et trouver le reste à la banque ou en liquide.
Paul-Henrik nous fait cette confidence. Jadis, 50 personnes travaillaient ici. Ça s'activait de partout. Aujourd'hui, il est seul avec ses deux employés. Les machines ont rendu le travail plus facile, mais on se sent parfois seul à la ferme. Les agriculteurs danois sont très attachés à la terre. D'où vient cet attachement ? Søren Beck Pilgaard Christensen, professeur agrégé à l'Institut de géographie à l'Université de Copenhague.
We've had agricultural reforms in the end of 17th century, early 18th century.
Fin 17e et courant 18e siècle au Danemark, une série de réformes a façonné notre rapport à la propriété. De petites parcelles de terre ont été rassemblées entre elles et rattachées à des manoirs. La majorité de la population vivait alors à la campagne. Très peu de paysans possédaient leur propre exploitation. Plus tard, de nombreux manoirs ont dû vendre une partie de leurs terres à ceux qui les cultivaient en fermage. Notre modèle de ferme dont une famille est propriétaire, vient de là.
And now they bought it, and that's how we established the present ownership pattern, so the family-based farm enterprise.
Sans oublier les fameuses coopératives danoises. Très efficaces depuis plus de 70 ans, elles regroupent des producteurs, notamment de lait ou de viande de porc. Pourtant, un grand changement a basculé le rapport à la terre au début des années 2000. Les
entreprises peuvent acheter des fermes. C'est beaucoup plus facile d'accès.
On a libéré l'accès à la terre agricole. Acquérir une ferme est devenu très facile. Toute entreprise, pas forcément agricole, pouvait le faire. Le marché est devenu presque totalement libre. C'était un énorme changement par rapport au passé, mais qui a aussi fait grimper les prix. Une bulle immobilière s'est créée, aussi bien dans l'agriculture que dans le logement. Cette surenchère a rendu impossible l'accès des jeunes à la terre. Aussi, les vieux agriculteurs ne trouvaient pas de repreneur. La bulle a éclaté avec la crise et depuis, les choses ne font qu'empirer.
En 10 ans, les prix de la terre ont été divisés par deux. Cette dégringolade a entraîné la baisse de la valeur des fermes. Nombreux sont les agriculteurs qui se retrouvent endettés. La dette totale frôle 400 milliards de couronnes danoises, soit 54 milliards d'euros. Actuellement, au Danemark, il faut en moyenne 17 000 euros pour acheter un hectare de terre, ce qui correspond au prix de la terre en Allemagne. Malgré cette baisse, de jeunes agriculteurs ont toujours du mal à s'installer. Un paradoxe ? Cap sur l'île de Fjøni, au cœur de l'archipel danois. C'est ici, à Wernigerode, que Hanne et Arne Jørgensen ont installé leur ferme biologique. Arne produit du lait et du porc. Sa femme, Hanne, enseigne à l'école du village et vend les produits de la ferme dans la boutique familiale. Quelques veaux s'impatientent dans leur enclos. Hanne fait les présentations.
Voici nos nouveaux-nés. Ils sont âgés de 2 à 3 jours à peine. Ils restent 48 heures avec leur maman avant de rejoindre le troupeau. On les a installés par deux afin qu'ils deviennent plus sociables. C'est l'une des règles de l'élevage en bio. Ils ne têtent que leur mère, que du bon lait, du vrai.
It's a real product. Yeah.
Un troupeau de 250 bêtes est nourri exclusivement avec de l'herbe bio cultivée dans les champs alentours. Arnier a acheté cette ferme il y a 25 ans. Il lui a fallu 10 ans pour obtenir une autorisation et passer en élevage biologique à cause du marché laitier qui commençait à saturer. Mais depuis, racheter des terres est devenu un casse-tête.
Jusqu'à 2008, il suffisait d'entrer dans une banque et de dire « je voudrais acheter une ferme » et ils répondaient « pas de problème, voici ton crédit ». Mais depuis la crise, rien. C'est devenu très très dur. Il y avait ce lopin de terre chez mon voisin qui voulait s'en séparer pour prendre sa retraite. J'avais un petit budget à moi, mais il a fallu aussi solliciter d'autres établissements de crédit et des banques. Je crois que je vais continuer à les rembourser toute ma vie.
Pourtant, la ferme est devenue viable. Son équilibre financier est assuré. Arnieux tient à nous montrer un robot de traite, son nouvel investissement. Adieu les astreintes de nuit. Les vaches se présentent librement au portique. Équipé de lasers et de caméras numériques, le robot nettoie le pis, tire le lait et désinfecte la mamelle. L'ordinateur analyse les données collectées grâce à un collier électronique que porte chaque vache.
That's good. Little more. So it's really good. Good cow.
La ferme de Verningelund est la seule sur l'île de Fjøni à vendre du lait cru. Hanne Jørgensen.
Au Danemark, la commercialisation du lait non pasteurisé est soumise à un règlement strict. Mais nous, on a obtenu l'autorisation. Les gens aiment notre lait car il est très digeste. Les gens viennent à la ferme et l'achètent pour faire eux-mêmes des yaourts ou du fromage maison.
Et voici Copenhague, ses canaux et ses bicyclettes plus nombreuses que les voitures. C'est là que les décisions sont prises. Pour aider les agriculteurs à faire face à la pénurie du crédit, un fonds spécial a été alloué à l'agriculture par le gouvernement danois. Surnommé Vækstfonden, ce fonds public permet le cofinancement des projets agricoles. Rolf Kjegård est le responsable en chef des investissements.
We provide financing for startups as well as established companies across all sectors and all industries.
Nous faisons partie d'un organisme d'État qui opère dans tous les secteurs d'activité. Notre fonds est un établissement de crédit qui travaille en collaboration avec les banques et les établissements de prêts hypothécaires, mais aussi avec d'autres organismes comme les fonds d'investissement ou les business angels. Notre rôle est de compléter les fonds qu'ils peuvent fournir afin d'aider une exploitation à se développer. Nous offrons nos services depuis 25 ans. La crise a changé radicalement la donne. Les agriculteurs ont toujours besoin d'investir, mais les banques sont réticentes. Il fallait un organisme qui réglerait ce problème.
Chaque année, 5% des exploitations considérées comme peu productives déposent le bilan au Danemark. Rompre ce cercle vicieux de l'endettement, trouver des financements alternatifs, c'est l'objectif de Danish Organic Farm Trust, une fondation danoise qui lutte pour l'investissement dans les fermes biologiques. La responsable de la fondation s'appelle Rikke Lundsgaard. Nous la rencontrons dans la banlieue nord de la capitale.
Nous voulons que plus de terres soient cultivées en agriculture biologique. Mais les fermiers qui souhaitent travailler en bio n'ont pas les moyens pour les acheter. Il faut débourser entre 4 et 5 millions d'euros pour une grande ferme. Et comme les bénéfices ne sont pas garantis aujourd'hui, eh bien les banques ne prêtent pas d'argent. Autre problème, nos agriculteurs vieillissent et les jeunes ne peuvent pas entrer sur le marché. Nous avons donc décidé de créer cette fondation. Son objectif, acheter des terres agricoles afin de les louer aux agriculteurs. Au Danemark, on possède habituellement les terres que l'on cultive. Mais nous avons voulu rompre avec ce modèle. Les agriculteurs exploitent une ferme et c'est la fondation qui en est le propriétaire. Ils nous paient les intérêts calculés sur la somme d'achat.
Après avoir obtenu le feu vert du régulateur du marché financier danois, la fondation a vendu ses premières actions.
En janvier 2018, nous avons déjà rassemblé 27 millions de couronnes danoises, soit près de 4 millions d'euros. Cette somme nous a permis d'aider un éleveur de volailles bio dans sa succession. Il habite dans le sud du Jutland et son fils voulait acheter des terres pour nourrir ses poules. Alors nous avons acheté 72 hectares adjacents à leur ferme. Nous les aidons à produire en bio tout en contribuant à la préservation de la nature.
Nous avons voulu savoir comment la filière agroalimentaire danoise s'organise face à ces problèmes. Le bureau du Conseil d'agriculture et d'alimentation danois se trouve près de la gare centrale de Copenhague. L'année prochaine, le Conseil fêtera ses 100 ans. L'occasion pour Martin Merild, son président, de faire un bilan.
Nous avons réussi à faire collaborer au sein d'une même organisation les fermiers, les industriels et la distribution. Ils ont beaucoup appris de ces coopératives. Au Danemark, les coopératives couvrent pratiquement 98% du marché laitier et 80% de celui du porc. Elles ont leur propre laiterie ou des abattoirs. Le fait de se réunir permettrait aux différents acteurs de la filière de mieux répondre aux intérêts des uns et des autres. Ils obtiennent un produit de qualité grâce auquel ils sont compétitifs à l'export. Et quand je discute avec mes collègues européens, je leur dis, la seule façon d'augmenter les marges, c'est de faire grossir son entreprise.
Le problème, c'est quand un seul maillon de la chaîne en profite.
C'est le cas de la grande distribution. Elle devient trop agressive. Eh bien, les autres devraient faire pareil, aussi bien sur le marché que dans la façon de faire des bénéfices. Le problème des petits producteurs, c'est qu'ils se font éliminer par des revendeurs qui les forcent à accepter leur prix. Face à des marques qui ont une valeur ajoutée très forte, ils ne pourront plus le faire. C'est dans cette perspective que l'on offre une formation aux agriculteurs pour qu'ils comprennent ces enjeux, sans oublier le consommateur. Un jour, il veut un produit pas cher et l'autre, il est fier de payer plus pour un produit de qualité. À nous de lui donner ce produit qui correspond à ses besoins.
À 100 km de là, dans la ville de Hung, les étudiants s'inquiètent. Philippe Johansen.
L'agriculture au Danemark souffre d'une mauvaise image dans certains médias. Les gens regardent Facebook et disent « je ne veux pas acheter ça ». Mais quand ils viennent à la ferme, ils apprennent et changent d'avis. On devrait mieux leur expliquer notre travail.
Il y a cette campagne de printemps adressée aux automobilistes. Si tu te trouves bloqué derrière une remorque, ne t'énerve pas. Elle transporte peut-être du pain, du sucre ou du lait, des produits dont tu as besoin.
Danemark, jeunes agriculteurs à la recherche de terres. Le grand reportage d'Agnieszka Kumor, réalisation Pierre Chaffangeon. Une émission réalisée avec le soutien de l'Union européenne. Like